D'après une étude du département de la justice des États-Unis qui a été rédigée en 2016, pendant l'année fiscale de 2005, environ 43 000 prisonniers fédéraux ont été placés sous surveillance ou sur ce que nous appelons la probation aux États-Unis, une forme de surveillance de ceux qui sortent du prison. 43 000 dans un an. En tout, 35% de ces personnes ont été arrêtées dans les 3 ans suivant leur départ de prison. Dans les 3 ans suivant le prison, 35% de ces personnes ont été arrêtées et remises en prison. Dans les 3 ans suivants. Puis, quelques années de plus, si on compte 5 ans après, 43% de ces mêmes personnes ont été arrêtées et sont allées encore une fois en prison. Presque la moitié de cette 43 000 personnes, donc à peu près 20 000 personnes qui avaient fait une sorte de temps à prison fédérale, hein, pas juste locale. Ils étaient encore une fois en prison dans quelques années après, en moins de 5 ans après. C'est un peu surprenant, n'est-ce pas? Ça nous fait penser à l'efficacité du système de justice, n'est-ce pas? Ça nous fait penser à ce que c'est la prison. Qu'est-ce qu'on va changer dans l'homme quand on est en prison, quand on est isolé de la société, de nos contacts? Et puis, après quelques années, il semble que les gens reprennent leurs habitudes. Et en fait, je voulais souligner que ce sont ceux qui ont été arrêtés. Il y a peut-être d'autres qui n'ont pas été arrêtés, n'est-ce pas? Parce que cette idée de surveillance ne continue pas à jamais. En fait, le sujet de cette étude, c'est ce qu'on appelle le récidivisme. Le récidivisme, c'est l'idée de reprendre les vieilles habitudes ou un comportement antérieur. En particulier, le comportement criminel. Le récidivisme, qui est sujet ici, est quelque chose qui concerne le changement, ou, en ce cas, le non-changement du comportement de l'homme. Ce sujet nous fait penser, bien sûr, encore une fois, à l'efficacité du système de justice, mais il souligne aussi quelque chose de bien plus profond que cela. Il souligne que chez l'homme, nous avons la tendance à retourner en arrière. Nous avons la tendance à nous reprendre nos habitudes du passé pour répéter les fautes du passé. Même après le prison, même après la punition, nous avons cette habitude. Il semble que le repentir ne fasse pas partie du système pénal. Est-ce que c'est le but? Peut-être pas même. Mais quand même, ça coûte de l'argent pour la société de reprendre des prisonniers. Encore une fois, on va payer à garder les prisonniers. J'ai fait, dans cette étude, ils ont fait une analyse des coûts associés avec ces prisonniers. Et ça prend beaucoup d'argent pour garder quelqu'un pour toute l'année. C'est à peu près 23 000 dollars, à peu près, je dirais, 20 000 euros par an. Pour quelqu'un de rester en prison. Et si on reprend les mêmes personnes en prison quelques années après, on n'est pas en train de changer la société et on va dépenser beaucoup pour, c'est un coût pour la société. Reportons-nous maintenant aux Actes et le chapitre 17. Le repentir n'est peut-être pas le but, l'objet du système pénal, mais c'est quand même le repentir qu'il est souligné ici par l'apôtre Paul aux Actes chapitre 17 et le verset 30. Actes chapitre 17 et le verset 30. Nous voyons ici que l'avertissement est là, que Paul a souligné en prêchant l'Évangile, quelque chose de très important pour toute l'humanité. Et donc, aux Actes, nous avons ces paroles, le chapitre 17 et le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Qu'ils aient à se repentir. Ce mot « repentir » ou « se repentir » a été écrit principalement, le Nouveau Testament a été écrit principalement en grec, et donc le mot qui a été traduit ici, « se repentir », a une signification importante pour nous, aujourd'hui. C'est un mot grec qui était « metanoia », « metanoia » en grec, qui indique un changement de but ou un changement de direction total. Ce n'est pas seulement un changement d'avis. Ce n'est pas seulement le regret après avoir fait quelque chose de mal. Mais c'est un départ total du péché, en fait. C'est un départ de la voie du péché qui mène à la mort. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de signifiant. Ces mots de l'apôtre Paul indiquent que l'homme a toujours besoin de se repentir de ses péchés. Ceci veut dire que la transgression de la loi de Dieu existe encore. Ceci veut dire que la loi de Dieu est toujours vivante et toujours en cours, toujours en force. Il y a des gens qui disent que la loi a été abolie. Mais pourquoi l'apôtre Paul dirait ces mots si la loi de Dieu était abolie? C'est la loi de Dieu qui est sainte. Donc pour ceux qui disent que la loi était abolie et que l'observance des commandements n'est plus importante, ils doivent pouvoir expliquer pourquoi Paul aurait parlé du repentir. Pourquoi il aurait parlé du repentir. Paul n'a pas changé l'instruction des évangiles. Il n'a pas changé l'instruction de Jésus. Reportons-nous maintenant pour nous rappeler de ça à l'évangile de Matthieu, le chapitre 3. Les enseignements de Paul sont consistants et sont en accord avec tout ce que Jésus a dit. Et tout ce que Jean-Baptiste a dit aussi. Nous voyons ici au chapitre 3 de Matthieu les paroles de Jean-Baptiste. Il a dit au verset 2, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. » Donc, bien sûr, Jean-Baptiste avait un rôle à jouer. Le message n'a pas changé. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et puis au verset 8, cette première partie du verset 8, il donne des instructions à ses disciples, les disciples de Jean-Baptiste aussi. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Voilà un accent qui a été mis sur le repentir. Et puis, à l'arrivée de Jésus, au chapitre 4 et le verset 17, rien n'a changé. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. » Encore une fois, nous observons qu'il n'y a pas eu de changement dans l'instruction entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Mais continuons aux actes, parce que, bien sûr, le jour de la Pentecôte, acte 2, Jésus est déjà monté aux cieux. Et qu'est-ce qui va se passer après son serment? Qu'est-ce que Pierre a dit à ce groupe de milliers de personnes? Acte chapitre 2 et le verset 38. Encore une fois, l'instruction n'a pas changé. Le repentir est toujours accentué et souligné par ceux qui prêchent l'Évangile. Le verset 38, acte 2, Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Pour le pardon de vos péchés. Le repentir et le pardon, et après, il est mentionné la réception du don du Saint-Esprit aussi. Tout est lié à un changement de cœur, un changement de direction, un changement de but dans la vie. Pas simplement une idée de regret ou une idée de changement d'avis temporaire. C'est beaucoup plus profond que ça, n'est-ce pas, frères et sœurs? Alors, gardons ces avertissements à l'esprit en reprenant des exemples aujourd'hui, ce jour, le premier jour de la fête des pains sans levain. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12 et le verset 15. Exode chapitre 12 et le verset 15, nous avons l'instruction pour ces 7 jours, la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Et voilà. Nous avons mis le levain dehors. Nous avons fait un nettoyage spirituel et physique pour préparer ces jours, pour préparer nos cœurs pour cette fête. Considérons aujourd'hui le vrai repentir. Le vrai repentir. Nous avons lu les paroles de Jean-Baptiste, les paroles de Jésus-Christ, les paroles de Pierre, qui nous encourage à nous repentir, à changer de direction. Donc, considérant ce vrai repentir, en examinant aujourd'hui 2 exemples bibliques, je veux qu'on examine ensemble. Ces 2 hommes, comme nous tous, ont été choisis par Dieu pour un rôle particulier. Un rôle qui aurait un impact sur beaucoup de gens. Et nous aussi, nous sommes choisis aujourd'hui, nous sommes en train d'être préparés pour ce rôle à jouer dans l'avenir. Gardons ça à l'esprit aussi. Donc, aujourd'hui, reportons-nous dans le livre de 1 Samuel. La plupart du livre ici est dédié à 3 personnages principaux. Samuel, Saül et David. Les premiers chapitres racontent la fin de la période tumultueuse des juges et le début de la monarchie en Israël. Les Philistins étaient une force dominante dans la région et ils avaient même pu prendre l'arche de Dieu. Mais ils l'ont retournée après. Il y a eu la mort du sacrificateur Élie, et puis ses 2 fils. Il y avait beaucoup de mal qui se passait en ce moment en Israël. Les gens avaient complètement tourné le dos à Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ils ont abandonné la voie divine. Ils ont abandonné le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. et ils l'ont remplacé avec bien d'autres dieux, les dieux païens des environs de la région qui les entourait, des nations différentes. Ils avaient remplacé les temples et les endroits de Dieu avec des temples païens. Et Dieu n'était pas, bien sûr, content avec cela. Et ça a affecté aussi leur jugement. Ils avaient un peu, si vous voulez, avec les années des juges, abandonné leur roi. Ils avaient abandonné leur roi. Le roi qui était Dieu. En fait, Dieu était censé de rester leur roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour pouvoir lutter contre les rois de la région, pour pouvoir avoir une organisation différente, pour se rassembler, les anciens à cette époque ont demandé à Samuel de leur donner quoi? De leur donner un roi comme les autres. Bon, les Philistins, ils ont un roi, ils sont forts, ils organisent leurs armées facilement, ils ont de la force. Nous avons envie de faire la même chose pour lutter contre eux, pour avoir les mêmes systèmes, de devenir forts comme eux, d'avoir des armées nombreuses, des chevaux. Souvent, il est question de chevaux dans la Bible, dans l'Ancien Testament, des chevaux associés avec les armées. Quand on augmente les chevaux, on augmente l'armée, en fait. C'est souvent ça. Et c'est dans ces passages de 1 Samuel. Lisons 1 Samuel 8. Et quelques versets ici, juste pour donner un petit peu de contexte. 1 Samuel 8. En fait, ce n'était pas ce que Samuel aurait préféré, nous le savons. Mais les gens l'ont demandé. Les gens ont insisté qu'il devienne comme les autres, qu'il devienne comme les rois des nations qui les entouraient. Samuel, 1 Samuel 8 et le verset 5. Bon, il parle ici de tous les anciens à Rama, le siège de pouvoir en ce moment. Ils lui dirent à Samuel, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. » Comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Voyons encore une fois, Dieu était censé de régner sur le peuple d'Israël comme roi. Mais eux, ils avaient déjà rejeté. Et ici, on voit cette étape finale, si vous voulez, de leur réjection du Dieu Tout-Puissant, qui avait délivré le peuple des armées des étrangers. En fait, il continue, Dieu continue. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Voilà, il y aurait des conséquences, c'est sûr, avec ce choix. Dieu permet que Israël prenne un roi, et même en Deutéronome, c'était prévu un système, un choix, que Dieu choisisse un roi. Il a dit, quand vous allez vous retrouver dans les pays que je vous ai donnés, vous allez voir les nations qui vous entourent, et tout a été prophétisé un petit peu. Et Dieu a en fait créé un système d'avoir le choix de qui serait le roi sur Israël à sa place. Mais on peut dire que même s'il a mis en place un système, ce n'était pas l'idéal pour Israël, n'est-ce pas? C'était à cause de leur faute qu'il a dû prévoir ça. C'est un peu ça que Dieu fait pour nous aussi. Il prévoit certaines choses parce qu'il sait que nous aurons des fautes, il sait que nous allons trébucher, et donc il prévoit certaines choses pour ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donné des plaintes à Samuel Ils voulaient devenir plutôt comme ceux qui les entouraient. N'est-ce pas la même chose avec le monde? Des fois, nous cherchons à nous aligner avec les principes, avec le monde, parce que c'est plus facile, ça semble plus fort. Mais ce que nous savons vraiment, c'est qu'il ne faut pas faire ça. Il faut rester sur la voie divine qui mène à la vie. Et en fait, ils ont insulté Samuel parce que ses fils, ils disent, se livraient à la cupidité. Ils ont insulté, ils ont dit, bah, toi, tu n'as rien à nous dire parce que tes fils ne sont pas des hommes de bien. Et puis nous avons l'entrée ici, juste après, l'entrée sur scène de Saül, ici au chapitre 8. Et donc parlons un peu de la désobéissance de Saül. Parlons un peu de son comportement. Nous avons parlé tout à l'heure de cette idée de récidivisme, du comportement qui peut-être change pour un temps, mais qui reprend ses habitudes, qui va reculer sur le passé. Saül est parmi les personnages les plus tragiques de la Bible. Donc, considérons des exemples qui nous montrent des traits de caractère de Saül. Le mot récidivisme vient à l'esprit quand on pense à Saül. Et en petite parenthèse, si vous voulez, Saül, le nom Saül veut dire celui qui a été demandé. Celui qui a été demandé. Et donc, si vous voulez, Israël a demandé, et bon, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé un roi comme les autres, et c'est bien ce qu'ils ont reçu, n'est-ce pas, avec Saül. C'est ce qu'ils ont demandé. Je trouve intéressant cette histoire du nom de Saül. Mais continuons avec le chapitre 10, parce que nous avons des exemples de la vie de Saül, et son comportement envers les commandements, l'instruction, la loi, les instructions de Dieu qui étaient délivrées par Samuel, le prophète. 1 Samuel 10 et le verset 8. 1 Samuel 10 et le verset 8. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Puis, ok, il y a des instructions ici concernant une bataille qui va avoir lieu à Gilgal. Donc, il est instruit ici. Puis tu, c'est Samuel qui parle à Saül, puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous connaissez l'histoire? C'est Saül qui a dit, nous n'avons pas le temps, mais je voudrais bien offrir un sacrifice à l'Éternel. Donc moi, je m'en occupe. Je n'attendrai plus. Je vais livrer la bataille à Gilgal, mais je ne vais pas faire ce qu'on m'a demandé de faire, ce que Samuel m'a demandé de faire. Il a fait ce sacrifice, et puis juste après, Samuel est arrivé et l'a corrigé. Et Saül semble reconnaissant du fait que oui, je me suis trompé, j'aurais pas dû faire ça. Et il explique que voilà, il y avait des raisons, des bonnes raisons pour mon choix. Pour lui, c'était un peu de bien, un peu de mal. Son choix était pour le bien, même s'il y avait du mal dedans, même s'il n'a pas obéi, c'était pour une bonne raison, n'est-ce pas, dans ses yeux. Ça peut arriver, mais regardons encore un exemple de Saül, 1 Samuel 15, et considérant que c'est quelqu'un qui a été choisi comme roi d'Israël, donc à chaque fois qu'il fait des choix, il y a vraiment des impacts très importants. Nous, dans notre vie familiale, quand nous faisons des choix, il y a des impacts, mais imaginez d'avoir un impact sur toute une nation quand on fait un choix comme cela. Ce sont des hommes qui ont été censés de bien gérer, bien répondre aux instructions divines. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je dirais que c'est pour ça que Dieu est en train de nous préparer. Est-ce que vous vous sentez prêt? Moi, je ne me sens pas prêt J'aimerais bien beaucoup plus d'aide, beaucoup plus d'instructions pour me préparer pour le rôle qu'il nous a préparé pour l'avenir. J'ai besoin de son entraînement, de son aide par son Saint-Esprit. J'ai besoin de correction, de devenir beaucoup plus capable de faire ce qu'il nous prépare. 1 Samuel 15, le verset 2. 1 Samuel 15 et le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek. Il parle à Saül. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donc, c'est assez clair que Dieu l'Éternel avait envie de punir Amalek. Il avait créé cette idée de punition. C'était son objectif. Et qu'est-ce que Saül a fait? Lui, il a interprété un peu différemment, n'est-ce pas? Et donc, avant d'aller plus loin, nous pouvons tous créer des explications, des excuses quand nous faisons de mauvais choix. C'était pour du bien que j'ai fait ce choix-ci ou ce choix-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé au verset 8? Au verset 8, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévorer par interdit, et ils dévorèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Ils ont fait leur propre choix contre l'instruction directe de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont fait leur propre choix. On peut dire qu'il y avait une culture de prise de décision mauvaise, une culture qui ne fonctionnait pas, une culture qui existait depuis les juges, qui a été créée avec des années sous les juges, qui faisaient des mauvais choix. En fait, si vous lisez les juges, vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'exemples de mauvais choix, de choix juste comme ça, des choix qui auraient pu être beaucoup mieux, mais qui en fait eu des impacts horribles sur Israël, qui ont été des choix presque des choix complètement à l'égard, complètement erronés. Et encore une fois, bon, nos choix, ils ont un impact. Ils ont un impact. Et ici, si on considère l'impact des choix de Saül, vraiment, son impact était horrible sur Israël. Au cas de Saül, ils ont demandé un roi comme les païens. Et Dieu, en fait, Saül aurait pu faire mieux. Il aurait pu entendre et mettre en pratique l'instruction de Dieu. Parce qu'en fait, il a eu Samuel à ses côtés. Il a eu de la correction. Mais Samuel ne réussissait pas à le corriger. Saül a dit qu'il sentait du regret, qu'il était déçu d'avoir fait ce choix-ci ou ce choix-là. Il explique ici au verset 10 du chapitre 15, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant du Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il s'est descendu à Gilgal. Samuel se rendait auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni à l'Éternel, j'ai observé ta parole. » Samuel dit, « Qu'est-ce que donc tu, bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Saül répond, « Ils les ont amenés de chez les Amalekites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs. » Et ça continue. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois roi sur Israël ?» Il n'a pas considéré l'impact de ses choix. Il n'a pas considéré qu'il serait rejeté comme roi d'Israël et que Dieu avait déjà commencé à choisir, à préparer quelqu'un d'autre pour ce rôle. Et je peux dire que aujourd'hui nous sommes dans à peu près le même cas. Si nous n'obéissons pas, si nous ne changeons pas, nous avons quand même un rôle prévu et nous avons quand même la possibilité de nous repentir. Mais dans certains cas, si nous faisons ces choix comme ça, si nous nous montrons comme incapables de suivre les paroles de Dieu, Dieu nous donne le repentir. Mais est-ce qu'il va préserver le rôle qu'il aurait préservé pour nous si nous nous démontrons pas capables, pas loyal, pas fidèle? Je dirais que dans le cas de Saül, Dieu avait déjà dit, je rejette le fait que tu sois roi sur Israël. Moi, je vais travailler avec quelqu'un d'autre. Je vais mettre quelqu'un d'autre à ta place. Même si on a le repentir, on peut perdre certaines responsabilités. On peut perdre certaines choses, certaines bénédictions qu'on aurait pu obtenir de la part de Dieu. Bien sûr, il est toujours là pour nous. Il ne nous abandonne rien, jamais, mais nous pouvons faire des choix avec des conséquences inchangeables, des conséquences qui sont toujours des conséquences que nous n'aurions pas prévues. C'est comme ça avec les enfants des fois. Les enfants font du mal et eux, ils veulent déterminer les conséquences. « Ah ben, maman, papa, j'ai fait ça, je suis désolé, mais... est-ce qu'on peut éviter la punition cette fois-ci? Est-ce que je peux avoir mon jouet? J'aimerais bien quand même si j'admets que j'ai fait cette faute, ce problème, si j'ai fait ça, j'aimerais bien, moi, définir les conséquences de mes mauvais choix. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui a mis en place la loi de Dieu et qui a déterminé les rapports sur nos choix et les conséquences. Donc, considérant cet exemple de Saül et le fait qu'il a été rejeté par Dieu en tant que roi d'Israël. Il a été rejeté. C'est intéressant. Au verset 24, nous voyons que Saül a dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Ah, il est en train de blâmer le peuple, n'est-ce pas? Il fait ses excuses. Il fait ses excuses. Même s'il a admis qu'il a péché, il a pratiqué le récidivisme, n'est-ce pas? Il est retourné à son passé, à son comportement ultérieur. Et c'est dommage parce que ça a défini le caractère de Saül. Il a senti le regret, bien sûr. Il ne voulait pas être puni comme nous tous. Nous n'aimons pas la punition. Mais ce n'est pas que ça qui nous mène au vrai changement. C'est le désir de faire plaisir à notre Dieu Tout-Puissant qui devrait être derrière nos choix de le suivre. C'est pour ça qu'il est très important, comme dans la vie de l'eau et sa femme. Quand Dieu nous fait sortir du péché, ce n'est pas à nous de regarder en arrière. C'est ce qu'elle a fait. Nous avons déjà lu cet exemple aujourd'hui. Et là, elle souhaitait retourner peut-être à Sodome. Et elle est morte à cause de ses choix. Ses conséquences ne l'ont pas plu, je suis sûr. Mais elle sera quand même... Elle est un exemple pour nous tous, comme nous avons vu aussi tout à l'heure à l'évangile de Luc, chapitre 17. C'est en fait Jésus qui nous a demandé de nous rappeler de l'exemple de la femme de l'eau. Nous ne savons pas exactement pourquoi elle voulait retourner à Sodome. C'était toute sa vie qu'elle est passée à Sodome. Elle aimait peut-être les gens là-bas. Elle aimait la vie. Sa vie était pas mal. Il y avait de ses enfants qui restaient. Elle voulait retourner. Et quand Dieu nous appelle, il faut que nous soyons capables de tout abandonner afin de le suivre. Abandonner toute cette voie qui mène à la mort. Des fois, ça nous demande d'abandonner certaines relations entre même la famille, les membres de la famille. On s'entend très bien avec eux, on s'aime, et puis on fait ce choix de garder le sabbat et les jours de fête de l'Éternel, et ça nous met en position difficile envers nos familles. Ça peut causer certaines frictions, certaines difficultés dans la famille. Mais il ne faut pas que nous soyons concentrés sur ces choses parce que nous suivons le Dieu de l'univers et il nous prépare une place. Il nous prépare quelque chose de beaucoup mieux que le monde qui nous entoure et cette vie que nous vivons actuellement. Considérons l'exemple des Corinthiens maintenant. Considérons l'exemple des Corinthiens. Reportons-nous maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 5. Le vrai repentir n'est pas seulement le regret. Le vrai repentir n'est pas seulement faire les pas, mais d'avoir l'esprit qui regarde à l'arrière. Parce qu'on peut faire les pas, on peut faire les actes, on peut bouger avec tout le monde, on peut faire le spectacle un petit peu, mais qu'est-ce qui compte? C'est ce qui est à l'intérieur, le changement du cœur qui compte. Et pendant la fête des pains sans levain, c'est le cœur qui est censé d'être bien propre et d'être complètement pur. Donc nous pratiquons la préparation pour la fête des pains sans levain en enlevant le levain, la levure de nos maisons et toutes choses qui contiennent cette levure. Et ça nous fait rappeler de la diligence avec laquelle nous devrions enlever le péché de nos vies. Bien sûr, pour préparer la place, pour nettoyer le temple du cœur dans lequel l'Esprit de Dieu réside. Dieu travaille avec nous à travers cet esprit qui est dans nos cœurs. 1 Corinthiens chapitre 5, et lisons les deux versets 1 et 2. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Donc c'est quand même un comportement inacceptable qui est en train d'être accueilli ici à Corinthe. Paul veut souligner le fait que le comportement dans l'assemblée, ce type de comportement qui est connu et qui semble accueilli ou qui n'est pas rejeté de l'Assemblée ne devrait pas rester. Des fois, nous avons envie de garder la paix, de ne pas déséquilibrer le bateau, et je crois que ça peut être la raison ou une des raisons qu'ils n'ont pas expulsé cette personne de parmi eux, parce que ils ne voulaient pas qu'on soit déçus. Ils voulaient plutôt la paix. Mais comme nous avons dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et si on est conscient, comme eux, s'ils étaient conscients de cette chose, ils auraient dû réagir pour préserver la sainteté de l'Assemblée. Mais qu'est-ce qui se passe tout à l'heure? Pourquoi Paul aurait été aussi grave, aussi dur avec les Corinthiens? Il explique tout à l'heure, 2 Corinthiens, chapitre 7. Il explique pourquoi il a corrigé assez sévèrement l'Assemblée de Corinthe. Mais c'était pas seulement le fait qu'il y avait une personne dans l'Assemblée qui pratiquait quelque chose qui était connu par tout le monde et qui était complètement absurde, qui était complètement mauvais. Mais c'était beaucoup plus profond. Il touche à quelque chose de beaucoup plus important que ça. Verset 6, 2 Corinthiens 7 et le verset 6. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Et maintenant, quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu. Une grande différence entre l'attristement ou le regret et le fait de retourner envers Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition, vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Il souligne au verset 9 le fait que la repentance a été produite par la tristesse. Cette tristesse qui n'est pas comme la tristesse ou le regret simple de ce monde. Tout le monde, bien sûr, quand on est châtié, tout le monde a des regrets. Nous n'aimons pas la punition. Mais ce n'est pas seulement ça qui doit nous motiver pour faire plaisir à Dieu, pour obéir à Dieu, pour changer depuis l'intérieur. Et je trouve très intéressant le fait que Paul, ici, a mentionné au verset 11 beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Relisons le verset 11 un petit peu. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quelle zèle, quelle punition. Toutes ces choses, on peut dire que toutes ces choses n'auront pas pu se produire si eux, ils n'avaient pas fait de la repentance, s'ils n'avaient pas pu vraiment changer. Donc, si nous ne changeons pas depuis l'intérieur, c'est possible que nous aussi, nous passons de côté de certaines choses que Dieu veut produire en nous. En pratiquant la repentance, nous donnons lieu à la production ou à l'accroissement de certains fruits dans nos vies. Ici, Paul a fait une liste de plusieurs choses que le repentir a permis à Corinthe à créer en eux, à développer. Des choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. Donc nous sommes aussi capables de passer de côté de certaines bénédictions si nous pratiquons le repentir du monde, si nous ne pratiquons pas le vrai repentir. Assurons-nous donc que nous sommes toujours en train, dans cette vie chrétienne, nous sommes toujours en train de se repentir. Nous avons le désir de faire plaisir à Dieu, de développer une relation avec lui. Cette relation mène à la repentance et nous avons reçu, les membres de l'Église ont reçu l'Esprit Saint parce que nous avons préparé une place pour son Esprit. Nous avons nettoyé avec l'aide de Dieu. Il nous a donné la possibilité de recevoir son Esprit en nous. Et donc, quand il est question de conversion, le vrai repentir est essentiel. Et quand il est question de notre croissance et notre préparation pour l'avenir, pour le rôle qu'il nous a préparé, le repentir est toujours très important, est essentiel. Nous avons parlé déjà de l'exemple de Saül. Nous avons parlé du fait que l'Éternel était en train de préparer quelqu'un d'autre lorsque Saül l'a désobéi et que Samuel, en fait, ne voulait même pas parler avec Saül après ces moments-là. Ils ne se sont pas vus jusqu'à sa mort. Mais qui préparait-il? 1 Samuel 13 et le verset 14. Je commence un peu plus haut. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Nous voyons ici que lorsque Saül a rejeté l'instruction de Dieu, il a fait sa propre logique, il a fait sa propre décision, d'après ses propres volontés, et Dieu a répondu en choisissant quelqu'un d'autre, quelqu'un d'après son cœur, d'après le fort intérieur, si vous voulez, de la personne. Il a choisi David. Encore une fois, Saül aurait pu repentir, c'est sûr, il aurait pu repentir, mais il était quand même rejeté comme roi d'Israël. Sa partie dans le plan de Dieu a été terminée. Sa partie, au moins à cette époque-là, prenait fin. Il a perdu une grande opportunité avec ses choix. Il a choisi pour le moment, pas pour l'avenir. Il a fait ses choix d'après ce qu'il voyait avec ses yeux. Et c'est ça que nous avons la tendance aussi de faire le choix d'après ce que nous voyons avec nos yeux, au lieu de faire nos choix par la foi, chose que nous ne voyons pas encore. Samuel a été envoyé par l'Éternel pour oindre David. Et c'est l'Éternel qui regarde sur le cœur de l'homme. Bien sûr, David a aussi transgressé. Il a aussi fait des mauvais choix. Et quand il s'est repenti, sa repentance était le repentir véritable, le vrai repentir. Nous le voyons, nous l'observons, bien sûr, avec cette histoire de Bathsheba et d'Uri. 2 Samuel 12 et le verset 13. Nous ne voulons pas dire que David était parfait, mais il avait un élément qui manquait chez Saül. Il y avait un élément qui manquait chez Saül. Et 2 Samuel, chapitre 12, et le verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Voilà encore une conséquence au péché de David. Les conséquences sont là. Ils sont là pour nous aussi. Nous n'aimons pas ça. Nous préférions éviter toute conséquence, n'est-ce pas? Mais les conséquences sont là et ils ne sont pas à nous de définir les conséquences de nos péchés. C'est intéressant que la même phrase a été employée ici par Saül, par Judas, et le fait qu'ils ont péché, mais notons que Dieu a répondu à David. Il a dit qu'il mourra point. Pourquoi ces transgressions graves ont été pardonnées chez David? Pourquoi pas chez Saül? Pourquoi pas? Il est important qu'on se rappelle du fait que nous transgressons contre l'Éternel. Nous transgressons contre l'Éternel. David a reconnu le fait qu'il a transgressé contre l'Éternel. Et il a reconnu ça. Il a écrit le psaume 51. Et nous lisons quelques versets de ce psaume. Nous sommes conscients du fait que c'est un psaume qui concerne ses péchés et qui, dans ce psaume, il demande un cœur complètement renouvelé. Il veut changer à partir de son intérieur. Il n'est pas seulement en train de regretter les conséquences, mais il voudrait faire plaisir à Dieu. Au verset 3, le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. David a reconnu le fait qu'il a péché contre l'Éternel, mais il avait envie de faire plaisir, de chercher le cœur de l'Éternel. Il a pratiqué le vrai repentir, et ses fruits l'ont démontré aussi. Plus tard, il avait envie aussi, dans ce même temps, il avait envie de de bâtir une maison pour l'Éternel. C'était son désir de donner quelque chose. David, en arrivant à sa cité de David, il voyait le fait que l'arche de Dieu était sous un tabernacle, sous une tente, et lui, il était dans ses environs luxueux. Et il voulait donner une maison pour l'Éternel. Il voulait faire plaisir à l'Éternel. Donc nous devrions aussi pratiquer le vrai repentir. Nous devrions chercher toujours à faire plaisir à l'Éternel. Et c'est pendant ces 7 jours des pains sans levain que nous avons la possibilité de réfléchir, de méditer sur nos vies, sur nos choix et sur notre besoin de Dieu et de son pardon. De réfléchir sur le rôle qui prépare pour nous, le rôle de devenir des rois sacrificateurs, de servir avec lui au royaume de Dieu, ici sur la terre. Le monde sera changé. Nous devons changer maintenant. Nous devons préparer le cœur, préparer la place et garder ce temple, le cœur en nous. Garder ce cœur pur pour que son œuvre soit accomplie, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour que tout le monde puisse profiter de cette vérité, de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir. Nous devrions pratiquer le repentir. Ça fait partie des doctrines fondamentaux, de nos croyances fondamentaux de l'Église. Hébreux chapitre 6. Ici, on trouve une liste de doctrines fondamentales du Nouveau Testament. Et nous situons dans ces doctrines aussi. Nous identifions avec ces instructions cette petite sommaire des doctrines de l'Église. Il est important que ces doctrines soient ici, dans le Nouveau Testament. C'est quand même encourageant pour nous. Ici, nous avons la partie, juste avant le chapitre 6, l'auteur de Hébreux mentionne ici, au verset 12, « Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Ici, dans la fête des pains sans levain, nous réfléchissons sur notre discernement, notre capacité de considérer, de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est intéressant que le pain levé et le pain non levé, des fois, il n'y a pas grande différence entre la forme. C'est vrai que l'idée du levain qui gonfle, et là, c'est l'image que nous avons en tête. Mais il faut quand même un discernement pour nous tous, n'est-ce pas? Il peut y avoir du levain dans un pain qui semble pas gonflé. Et c'est intéressant qu'il y a ce parallèle d'être en train de toujours discerner, de faire très attention à nos choix. Et ça nous permet de mieux préparer ce que nous allons faire dans l'avenir. Puis, ici, au chapitre 6, et vous savez que à l'époque, ils n'avaient pas les chapitres, donc c'est plutôt une continuation du même instruction, de la même instruction qu'au chapitre 5. Et donc, il continue. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu de la doctrine de baptême et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Il est intéressant ici qu'il nous encourage à tendre vers la perfection, à ce qui est parfait, tendant à ce qui est parfait, tendant à ce qui est sans levain, qui est pur, qui est divine, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Nous avons cette occasion de nous rapprocher à Dieu pendant cette période de fête de pain sans levain. Nous avons la possibilité de manger le pain non levé tous les jours pour nous rappeler du pain de vie qui est Jésus-Christ et de l'importance de ses paroles dans nos vies. Il faut un repentir afin de pleinement profiter de son instruction. Il faut que nous fassions la préparation afin que Dieu soit capable de nous enseigner davantage. Préparons la voie pour l'Éternel. Préparons nos cœurs parce qu'il voudrait travailler en nous et parmi nous, à travers nous aussi. Il veut que nous produisions un fruit qui fait plaisir aux yeux de Dieu et qui en fait donne aux autres aussi. Nous connaissons Galates chapitre 5, le fruit de l'Esprit, et nous avons cette tâche devant nous aussi. De pouvoir produire, il faut d'abord qu'on passe de bons choix, garder ce cœur pur en pratiquant le vrai repentir. Donc nous avons lu aujourd'hui que David cherchait à faire plaisir à Dieu. Il cherchait, avec son cœur brisé, il cherchait un cœur renouvelé. Et c'est bien dans le cœur que Dieu travaille avec nous aujourd'hui. Il est important à noter toujours qu'il y a une différence entre le regret et le vrai repentir. Soyons conscients du fait que nous devrions pratiquer le vrai repentir. Et cela nous mène à un changement réel, un changement qui durera à jamais, un changement qui prépare la voie pour l'arrivée du royaume de Dieu sur la terre et notre rôle que Dieu prépare pour nous aussi. Cette tristesse nous mène à beaucoup de bonnes choses. Cette idée de se repentir nous donne l'occasion de croître dans la bonne voie. Ça va peut-être nous faire mal de temps en temps. Nous devrions des fois abandonner certaines choses qui sont assez convenables, assez intéressantes, assez plaisantes, comme avec les pains sans levain. Nous ne mangeons pas la baguette, nous ne mangeons pas certaines choses que d'habitude nous aimons beaucoup, des choses qui nous font plaisir. Et servir Dieu demande des fois le sacrifice. C'est Dieu qui a donné le sacrifice ultime et nous devrions imiter notre Dieu Tout-Puissant. Gardons en tête, gardons dans nos cœurs le cœur changé, l'idée que la tristesse nous mène au changement. La tristesse en Dieu nous mène au vrai changement, le repentir. Comme ça, Dieu nous pardonne et nous aurons le cœur pur. Nous aurons le cœur pur et le cœur qui est apte à servir le Dieu de l'univers.